Ici Paris Île-de-France, jusqu'à 11h, bienvenue chez vous. Votre émission pour mieux vivre ici. Corentine Feltz.
C'est la journée mondiale contre le cancer aujourd'hui. Alors quelles sont les avancées de la science et les promesses pour demain? Comment l'intelligence artificielle accélère la cadence? Les victoires face au cancer, on va en parler. Et puis on verra aussi comment réagir et comment accompagner un proche malade. Alors avec nous ce matin, notamment le professeur Fabrice Barlesi, qui est directeur général de Gustave Roussy, spécialiste des thérapies innovantes contre le cancer et co-auteur de ce livre « Guérir le cancer commence ». Aujourd'hui, aux éditions Privat. Bonjour professeur.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir ce matin. Alors, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Évidemment, la France figure parmi les pays les plus touchés par le cancer. Et ce chiffre-là m'a beaucoup surprise. Mais la France reste quand même exemplaire dans la prise en charge et le taux de survie. Ça, c'est important de le préciser. Mais déjà, professeur, pourquoi en France, il y a plus de cancers que dans d'autres pays européens ?
Il y a plusieurs explications. D'abord, le niveau d'exposition à certaines exposants n'est pas exactement le même. Par exemple, le tabagisme n'est pas exactement le même dans tous les pays. L'intoxication alcoolique non plus.
Donc, on fume plus et on boit plus qu'ailleurs.
Alors, en tout cas, par rapport à certains pays, il y a une espèce de gradient nord-sud. Mais bon, je crois qu'il faut simplement rappeler qu'il y a quand même une partie de ces cancers qui sont évitables avec des mesures simples. Le tabac, l'alcool, la sédentarité, le surpoids sont des facteurs qui permettraient d'éviter à peu près 40% des cancers. Et on n'a pas toujours en France une attitude exemplaire dans tous ces domaines. C'est un peu notre culture de vie.
Alors moi, j'ai regardé un petit peu aussi les causes. Hein, vous les avez citées, professeur. Les causes du cancer, tabac, alcool, ça revient tout le temps. Il y a aussi surpoids. C'est pas obésité, hein. J'ai bien lu. Surpoids.
Ouais, c'est le surpoids. C'est en fait, alors il y a beaucoup d'hypothèses biologiques, mais une des premières, c'est que en fait, lorsqu'on est en surpoids, il y a un petit peu de graisse. Dans cette graisse, se fabrique qu'un certain nombre d'hormones ou d'équivalents d'hormones qui peuvent être des stimulateurs de la croissance des cellules tumorales. Bon, c'est résumé un peu simplement, mais l'idée est là. Et donc, arriver à avoir un exercice physique qui, par lui-même, est un facteur qui permet de diminuer le risque et, par ailleurs, de rester dans un index corporel qui est dans la normale, aide évidemment à prévenir une partie de ces cancers.
Pour les femmes, les traitements hormonaux ressortent aussi dans les causes de ces cancers. Traitement hormonal, on parle de la pilule qu'on prend au quotidien, on parle du traitement de la ménopause, on parle de quoi exactement ?
Alors c'est dans la vie des femmes, il y a évidemment plusieurs périodes. C'est pas les contraceptifs oraux, c'est plutôt les traitements substitutifs qui ont été étudiés. Il n'y a pas de chiffres qui soient formels sur l'impact, mais il est clair que les femmes ont chacune un niveau de risque qui est différent en fonction, par exemple, des antécédents familiaux, en fonction de facteurs génétiques. Et donc, ça veut dire que l'initiation de ces traitements monosubstitutifs, la durée de ces traitements monosubstitutifs justifie d'être discutée avec son gynécologue.
Effectivement, tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur cette question du traitement de la ménopause, mais donc ce n'est pas la pilule contraceptive qui pose problème.
Non.
C'est ce que vous me dites, professeur. Très bien. Pollution, ça revient aussi, hein, ça fait partie de ces facteurs qu'on a ajoutés à la liste.
Alors, ça fait partie des facteurs qui pourraient expliquer une partie de l'augmentation récente d'un certain nombre de cancers. Alors,
cancer du poumon, notamment, chez des non-fumeurs, par exemple.
Alors, dans les hypothèses qu'on a, effectivement, c'est qu'en fait, il y a un mécanisme biologique qui pourrait apparaître, et la pollution, c'est un peu plus le facteur accélérateur. Le fait que la maladie va se développer, et effectivement, il y a des données qui montrent que l'exposition à la pollution pourrait être responsable, en particulier les particules fines.
Dans les causes du cancer, je n'ai pas vu le stress, je n'ai pas vu de cause psychologique. Pourtant, les gens le disent souvent, tu as eu un choc, tu as développé un cancer. Et que dit la science là-dessus ?
Très difficile à prouver, en fait, quand on regarde, si on fait un petit peu rétrospectivement, chez chacun d'entre nous, on va trouver un événement heureux ou un événement malheureux dans les
donc
six mois qui précèdent.
C'est...
En fait, c'est très difficile de le démontrer, mais il y a possiblement un lien sur notre système immunitaire.
D'accord.
Et ça pourrait expliquer certaines maladies.
57% de cancer chez les hommes et 44% chez la femme, donc l'homme est largement plus touché par le cancer. Comment on explique cette différence, professeur ?
De la même manière, les expositions tabac, même si le tabagisme chez les femmes a très fortement augmenté depuis les années 60, l'intoxication éthylique également, le fait que les femmes soient un peu plus attentives à leur santé, on voit bien le taux de dépistage, par exemple, dans le cancer du sein est supérieur quand on regarde la globalité du cancer, du dépistage dans les cancers du côlon, par exemple. Les femmes sont plus observantes à leur santé, donc elles se protègent plus.
D'accord. L'âge moyen d'un cancer, c'est autour de 70 ans, hein, 68-70 ans. Il y a de plus en plus de cas chez les jeunes. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que le nombre de cas de cancer globalement est en augmentation. Est-ce qu'on sait pourquoi, professeur ?
Oui, il y a trois grands facteurs. Le premier, c'est évidemment l'augmentation numérique de la population. Plus on est nombreux, plus il y a de cas de cancer. Le second, c'est le vieillissement de la population. Oui. Le cancer, c'est en partie une maladie du vieillissement. Et puis, il y a une partie de changement dans les facteurs de risque. On a parlé de la pollution. Il y en a un certain nombre d'autres dont on pourrait parler. Bon, il y a les plastiques aussi, qui sont un vrai enjeu. Et donc, c'est énormément de travaux de recherche. Et on peut engager tous les auditeurs à participer aux différentes cohortes nationales, E3N, E4N, qui vont nous aider de mieux comprendre ces facteurs de risque.
Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'en France, on a une très bonne prise en charge, l'une des meilleures, avec un bon taux de survie, même si on a beaucoup de cas de cancer dans notre pays. Gustave Roussy, chez nous, à Villejuif, est l'un des plus grands et des plus réputés centres anti-cancer au monde. Alors, on verra dans un instant quels sont les espoirs pour demain. Il y a plein de livres à gagner ce matin. On attend vos témoignages, on attend vos questions. N'hésitez pas, l'un des plus grands spécialistes le cancer est avec nous ce matin. Le professeur Barlesi reste jusqu'à 10h, 01 42 30 10 10.
Bienvenue chez vous, l'émission qui parle de vous, avec vous. Jusqu'à 11h sur votre radio locale, ici Paris de France.
Les espoirs en matière de recherche contre le cancer, on en parle ce matin avec le professeur Fabrice Barlesi, qui est directeur général de Gustave Roussy. C'est le premier centre anti-cancer d'Europe et l'un des meilleurs du monde. Vous avez d'ailleurs, professeur, écrit ce livre « Guérir le cancer commence aujourd'hui ». À la fin du livre, il y a les grandes dates autour du cancer, comme la première consultation en cancérologie ouverte en France par le professeur Gustave Roussy, c'était en 1921. 1957, création du département de radiothérapie. Moi, j'aimerais savoir en quelle année on pourra écrire la date de la guérison totale de tous les cancers. Est-ce que vous avez un espoir, une idée, professeur Barlesi ?
Un espoir, évidemment. Une idée, c'est prétentieux, mais en tous les cas, les progrès aujourd'hui nous permettent d'imaginer qu'on arrivera à guérir l'immense majorité. On s'est fixé 80% dans les 15 ans qui viennent, c'est-à-dire augmenter d'encore 15% le nombre de malades guéris en 15 ans.
Donc aujourd'hui, c'est 65% de malades guéris. On va passer à 80% à horizon 2040. 2040, c'est demain.
2040, c'est demain, mais les progrès, on est passé de 50 à 65 en une trentaine d'années. La rapidité avec laquelle on fait des progrès, notre meilleure connaissance c'est biologique, la rapidité avec laquelle on arrive à développer des médicaments aujourd'hui et la précision avec laquelle on les développe et l'élargissement de l'arsenal thérapeutique nous permet de raisonnablement espérer guérir 80%.
Et l'intelligence artificielle, professeur ?
L'intelligence artificielle va accélérer tous les domaines. Elle va nous permettre à la fois d'être peut-être meilleurs dans les domaines de la prévention, du dépistage, ce dont on a parlé. Elle va nous permettre d'être meilleurs aussi dans la conduite thérapeutique, le suivi des malades et la précision thérapeutique. Elle va nous permettre dans le domaine de la recherche d'analyser aussi de très très larges databases et de dépister des signaux qu'aujourd'hui on a du mal à identifier.
Quelles sont les avancées majeures de ces dernières années ? Vous dites qu'on a beaucoup progressé, et c'est vrai. Par exemple, sur quel point ?
Si on fait un petit retour en arrière sur les 20 dernières années, il y a d'abord le séquençage de l'ADN qui a permis de mieux comprendre l'ADN tumoral, d'identifier des altérations, et c'est tout le développement des thérapies ciblées. Il y a ensuite notre compréhension du système immunitaire et le développement de l'immunothérapie. Et puis on a aujourd'hui les progrès technologiques qui nous permettent, par exemple, avec tout le développement dans la médecine nucléaire, ce qu'on appelle les radioligands thérapeutiques, mais aussi tous les traitements locaux. La chirurgie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la chirurgie d'il y a 20 ou 30 ans. La radiothérapie d'aujourd'hui est aidée par l'IA, on en parlait à l'instant, et elle permet d'être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait et d'être aussi plus performant.
Il reste encore des inconnus dans l'équation du cancer, professeur. Est-ce qu'on sait comment la maladie se développe ? Est-ce qu'on sait pourquoi elle récidive ? Est-ce qu'on sait pourquoi elle métastase ? On n'a pas de réponse à ces questions-là ?
On a beaucoup de connaissances biologiques, mais après, passer de la biologie et de la recherche du laboratoire au patient, c'est évidemment une étape qui est complexe, chacun étant différent, chacun étant soumis à des facteurs exogènes qui peuvent être là aussi différents. Mais les outils dont on dispose aujourd'hui vont nous permettre probablement, un, de mieux comprendre, d'être plus précis dans la prévention. C'est le sens du programme Interception qu'a lancé Gustave Roussy, qui est disponible dans 18 villes en France aujourd'hui. C'est aussi le sens de notre capacité à suivre les malades, avec avec de la biopsie liquide, c'est-à-dire des prises de sang qu'on va faire régulièrement au cours du traitement. Et puis, c'est aussi l'intelligence artificielle qui, effectivement, va permettre des analyses des pièces tumorales, des prélèvements des biopsies qui sont faits et qui va permettre peut-être d'identifier des signaux qu'aujourd'hui, on ne sait pas capter pour différencier le risque qu'aura chacun individuellement de progresser ou de récidiver.
Et tout ça donne évidemment beaucoup d'espoir. Alors, on vous offre ce matin le livre coécrit par le professeur Barlesi de l'Institut Gustave Roussy. Guérir le cancer commence aujourd'hui aux éditions Priva. Et puis, on va vous offrir aussi le livre de notre deuxième invité qui rentre en piste dans un instant, Delphine Rémy, Être là, consoler et soutenir une personne malade. Parce qu'on n'a pas tout à fait le mode d'emploi quand quelqu'un de notre entourage nous annonce qu'il est atteint d'un cancer. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant, Delphine. Vous continuez à nous appeler, on va vous écouter aussi, bien sûr, dans un instant, 01 42 30 10 10.
Jusqu'à 11h, votre radio locale, ici Paris Île-de-France, s'invite chez vous. Bienvenue chez vous.
On parle de la lutte contre le cancer à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer avec le professeur Fabrice Barlesi, qui est directeur général de Gustave Roussy, l'un des meilleurs centres anti-cancer du monde. Delphine Rémy aussi est avec nous. Elle est auteure d'Être là, consoler et soutenir une personne malade, auto-édité. Bonjour Delphine et bienvenue.
Merci.
Ravie de vous accueillir ici parce que votre histoire, à 45 ans, vous étiez donc mariée, maman de deux enfants.
Deux enfants,
quand
oui.
On vous a annoncé que vous étiez atteinte d'un cancer du sein très agressif. Et puis vous avez eu droit à la totale, double mastectomie, chimio, radiothérapie, hormonothérapie. Ça a duré au moins 5 ans, hein, tout ça. Plus la reconstruction mammaire et de nombreuses opérations pour y arriver. Et depuis, vous vous êtes engagée dans le soutien des malades et de leurs proches, et vous avez donc écrit ce guide pour accompagner un proche dans la maladie. Pourquoi vous avez écrit ce guide, Delphine ?
Mais c'était un sujet récurrent, il revenait tout le temps dans les interviews de podcast, ce gap, ce fossé entre malade et non-malade dans la communication. Et je l'ai expérimenté moi-même, puisque quelques heures après mon diagnostic, une connaissance débarque chez moi avec un joli petit bouquet de fleurs, donc je me dis, c'est sympa, mais et elle me regarde, elle me dit, le moral c'est 90% de la guérison. Je me suis dit, mince, je viens de me prendre le diagnostic, j'ai pas le moral, on fait une règle de 3, j'ai pas le moral, donc je vais mourir en fait.
Ce sont des maladresses.
Alors ce sont des maladresses et je tiens à dire que une maladresse, qu'est-ce que c'est finalement ? On a un manteau trop large, on se retourne, on fait tomber un vase, on fait pas exprès. Les maladresses peuvent être pleines de tendresse. Et cette femme, en me disant ça, je pense qu'elle voulait
m'encourager. Elle voulait vous aider,
bien sûr. Elle voulait, voilà. Et puis je raconte quand même que le mari était là et puis il me dit, tu vas perdre un sein, tu vas perdre deux seins, tu vas quand même reconstruire pour ton mari. Et là je me suis dit,
ah oui.
Waouh! En fait, on débarque dans le monde de la maladie, qui est déjà en un quart de seconde. De toute façon, la vie, elle change toujours en un quart de seconde. Mais on débarque dans un monde de maladresse. Mais attention, c'est plein de bonnes intentions. C'est une maladresse. Alors, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose, en fait. Ce sujet revient tout le temps. On va pas continuer à subir ces maladresses. Donc, je trouve que c'est le rôle du patient d'informer son entourage. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai eu le soutien de 8 sponsors et j'ai pu imprimer un petit guide en 16 pages.
Qui est distribué.
Voilà, qui est distribué, qui a été encarté. Il a été imprimé à 200 000 exemplaires, encarté dans le Rose Magazine. Il est imprimé, distribué dans les centres de soins. Il y en a d'ailleurs à Gustave aussi. Et puis je me suis dit, ce sujet est tellement important, et voilà, j'ai décidé de faire un livre, donc beaucoup plus complet, et j'ai aussi donné la parole à 7 autres malades, et c'est pas que l'oncologie, une paraplégique, une bipolaire, une qui a la sclérose en plaques, enfin d'autres maladies, et je trouvais que c'était important d'inclure vraiment tous les malades.
Delphine, je voudrais lire la première phrase de votre livre. « Le meilleur soutien, souvent, c'est pas celui qui vous relève lorsqu'on tombe, mais c'est celui qui s'allonge à côté. » Comment on s'allonge à côté de quelqu'un à qui on a annoncé qu'il avait un cancer, Delphine ?
Alors, j'ai envie de vous dire quelque chose. Quand on est enfant, des petits-enfants, vous avez déjà vu des vidéos sur Instagram, quand on voit deux petits-enfants, quand il y en a un qui est malheureux, l'autre va naturellement le prendre dans les bras. Les petits animaux aussi se consolent naturellement. Ils ne parlent pas encore, en plus, les petits-enfants, ils font une étreinte. Donc, on sait consoler. On s'est naturellement consolé, mais on a un peu désappris. On arrive avec nos couches d'adultes, nos sentiments d'impuissance, vouloir réparer l'autre, vouloir apporter des solutions, vouloir briser le silence et se dire « Ah mais j'ai une solution pour toi, tu dois faire ça, tu dois faire ça ». En fait, c'est très compliqué de consoler une personne malade. On console tous les jours, hein. En fait, on console une chute, un échec scolaire. Mais consoler une personne malade, c'est quand même plus vertigineux, c'est plus compliqué.
C'est l'inconnu aussi pour ceux qui ne sont pas malades.
L'inconnu, c'est très compliqué. Et à la fois, quand on lit ce guide, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Quand on l'a lu, c'est assez simple. Être là, c'est pas beaucoup, c'est justement s'allonger à côté, voilà, j'ai voulu parler des grands principes de la consolation.
Et puis, être là, c'est déjà ne pas partir, Delphine.
Exactement.
Cancer et rupture, c'est la double peine des femmes. À l'annonce d'un cancer ou d'une maladie grave, les femmes ont 6 fois plus de risques que les hommes de se séparer de leur conjoint. Selon certaines études, notamment citées sur radiofrance.fr, la moitié des femmes touchées par un cancer du sein sera quittée dans les mois suivant l'annonce du diagnostic. Quelle est votre réaction, Delphine ?
Alors, c'est un chiffre qu'on entend, enfin, ce sont des chiffres qu'on entend, qu'on voit. J'ai envie de vraiment insister sur la communication. Voilà, maintenant on le sait, on le lit, c'est écrit partout. Quand on arrive dans le monde du cancer, on le voit. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un onco-coach, un onco-psy, un onco-sexologue, parce que finalement, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Des cancers qui touchent la féminité, qui touchent les parties intimes. Pas hésiter à se faire aider. Après, il y a pas que des histoires malheureuses. C'est vrai que le cancer redessine les liens à tous les niveaux.
Renforce.
Ça peut être des amis, ça peut être... mais ça peut aussi renforcer. Alors moi, je vais parler 2 secondes de mon mari. Je suppose que vous connaissez les 5 langages de l'amour, les services rendus, le toucher, les paroles valorisantes. Enfin, il y a 5 langages de l'amour. Mon mari, il est que dans les services rendus.
Bon, ça peut 1 sur 5, c'est pas mal.
Oui, et un petit peu des autres quand même, hein, je vais le dire. Mais il est dans les services rendus. Alors si, à ce moment-là, au moment du cancer, en fait, j'ai besoin d'un soutien émotionnel, mais pas de chance, il n'était pas trop dans ce langage-là. Mais alors du coup, j'ai trouvé mon soutien émotionnel à l'extérieur. Et puis je trouve que c'est pas le rôle du mari d'être le psy de son épouse. Donc en fait, il faut se faire aider, il faut le savoir.
Delphine, vous restez avec nous, on va aussi offrir votre livre Être là, consoler et soutenir une personne malade. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. 01 42 30 10 10.
Ici, Paris-Île-de-France.
Bienvenue chez vous.
C'est la journée mondiale contre le cancer. On en parle ensemble avec beaucoup d'espoir du côté de la science, de la recherche, de la médecine. Et on en parle avec le professeur Fabrice Barlesi, qui est directeur général de Gustave Roussy. On en parle avec Delphine Rémy, qui raconte son expérience de malade. Maintenant que vous êtes guérie, hein, Delphine, on peut le dire.
Oui, en rémission.
En rémission,
guérie,
très bien.
Il y a tout un débat autour de ces termes.
C'est ça. Oui. Et Christophe qui nous rejoint pour nous raconter son histoire. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue Christophe.
Aux médecins.
On vous écoute, vous avez été soigné à l'Institut Curie de Saint-Cloud alors ?
Oui, exactement. Ça a été décelé le 3 janvier 2022. Pour une nouvelle année, c'est pas mal.
Cancer de la langue, c'est ça ?
Cancer de la langue, oui. En fin de compte, ma tumeur était au bout, sur la pointe de ma langue.
D'accord.
Je voyais un aphte, alors je suis dans le domaine médical. Donc je voyais que ça tournait pas, on connaît son corps, je voyais que ça tournait pas très très bien. Je me suis dit, ça sent pas bon. Et puis, en fin de compte, on m'a fait un traitement de 5 jours que ça n'a pas été. On m'a fait une biopsie. Donc, la biopsie était révélée positive, bien entendu. Et de là, on m'a dirigé. J'avais 3 choix. J'avais 8 juifs, qui sont pas mal aussi. J'avais 5 clous. Et puis, Mignot. Bon, Mignot, c'est trop l'industrie, donc j'aime pas trop. Et on me conseillait, moi je voyais côté pratique, hein, j'étais quand même à 70 km de l'hôpital. Donc je me suis dit, il n'y a pas le choix, j'ai conscience, c'est anciennement Huguenin, à Saint-Cloud. Voilà, donc j'ai été pris en charge, je peux dire le nom du chirurgien ?
Bien sûr.
Oui, de M. Rougier Guillaume.
Et en fait, le top du top. Ce que vous vouliez dire, Christophe, ici, c'est que vous avez été hyper bien pris en charge.
La prise en charge a été au top. Que ça soit moralement, on vous explique bien. Mon intervention a duré quand même 9 heures. Donc, on m'a coupé la moitié de la langue parce que j'avais une tumeur hyper agressive. Donc, elle m'attaquait vraiment très rapidement. Donc, ils m'ont pris un lambeau au niveau de l'avant-bras, au niveau du poignet. Et de là, aujourd'hui, ça va faire 4 ans, là, au mois de mars, 15 mars, que j'ai été opéré. Et vraiment, M. Roger, il est ravi de voir ma langue parce que, en fin de compte, le lambeau reprend l'aspect de ma vraie langue.
Bah,
et
oui.
Je n'ai pas perdu le goût.
Ça,
c'est le top. J'ai quelques difficultés sur certains aliments parce que j'ai eu 35 séances de rayons. Donc j'ai quelques difficultés encore aujourd'hui de manger certaines choses parce que j'ai 50%.
Mais on vous sent moins très positif quand même, Christophe. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans ce message de Christophe. J'ai été hyper bien pris en charge, professeur Fabrice Barlesi. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que en France, on a une chance incroyable quand on est atteint d'une maladie grave comme un cancer.
Bien sûr. En France, on a 800 centres autorisés pour la prise en charge du cancer. On couvre l'ensemble du territoire. Il y a une équité d'accès. Il n'y a aucun problème financier d'accès aux soins. Et puis, il y a une école de médecine française qui est extrêmement réputée. Et puis, je dirais, une capacité à mixer. C'est le cas de tous les instituts, l'aspect soins et l'aspect recherche pour faire progresser les soins. Et effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, l'accès à l'innovation est très protégé en France et favorisé. Et effectivement, on a aujourd'hui la chance d'accéder aux meilleurs des soins dans tous les sites.
Née princesse, vous êtes devenue guerrière, c'est ce que vous dites, hein, Delphine, à l'annonce de votre cancer agressif du sein à 45 ans. C'est d'ailleurs devenu le nom de votre podcast, hein, Née princesse, devenue guerrière.
Naître princesse, devenue guerrière, c'est une image que j'avais reçue de ma sénologue, et je la trouvais magnifique. C'était une amérindienne avec deux belles tresses noires, et il était écrit « Nous naissons princesse et la vie nous fait devenir guerrière ». Alors le vocabulaire guerrier, il y en a qui n'aiment pas trop, il y en a qui aiment bien, le combat, peu importe, mine de rien, c'est quand même c'est quand même un peu un combat.
Et d'ailleurs, votre réaction, professeur Barlesi, vous qui êtes directeur général de Gustave Roussy, vous qualifiez de vaisseau amiral, hein, d'ailleurs, l'Institut Gustave Roussy. Et dans votre livre, c'est Sophie Adnaud, astronaute française qui va bientôt s'envoler pour l'ISS, hein, dans quelques semaines à peine, qui a signé la préface. Quel rapport entre la conquête spatiale et la cancérologie ?
Ah, c'est extrêmement proche. Extrêmement proche, parce que l'idée, c'est que pour aller dans l'espace, il faut résoudre plein de problèmes différents, et tout le monde s'est mis ensemble pour arriver à les résoudre, et pour arriver à guérir le cancer, c'est exactement la même chose. Il faut se mettre tous ensemble autour de cet objectif pour arriver à le résoudre, et on a des choses qu'on connaît, des choses qu'on connaît pas. Il faut s'adapter, il faut être prêt à tout, et c'est exactement ce que Sophie Adnaud va faire dans l'espace, et on est très fiers qu'elle ait écrit cette préface.
Merci à Christophe pour son témoignage. Dans un instant, on accueillera celui d'Isabelle qui nous appelle de l'Essonne.
Bienvenue chez vous, l'émission qui parle de vous, avec vous. Jusqu'à 11h sur votre radio locale, ici Paris de France.
C'est la journée mondiale contre le cancer. Il y a énormément de bonnes nouvelles, d'espoir aussi autour du traitement de cette maladie. Vous êtes nombreux à nous appeler au 01 42 30 10 10 et je voudrais qu'on accueille donc Isabelle qui est dans l'Essonne. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour Corentine.
Bienvenue Isabelle.
Rappel.
Avec plaisir, merci à vous pour votre témoignage Isabelle. Vous vouliez nous raconter que vous êtes touchée, pas directement vous dans votre chair Isabelle, mais c'est votre mari.
Voilà, c'est mon compagnon à qui on vient d'annoncer là, le 16 janvier qu'il était atteint donc, d'un double cancer. Et donc on se sent vraiment perdu, tout ce qu'on comprend c'est qu'il faut aller très vite. Et donc, je profite de votre super émission pour essayer de récupérer un maximum d'informations pour avant, après, et on se sent vraiment démunis.
On se sent démunis, c'est vertigineux. Delphine Rémy, vous qui avez vécu cette annonce du cancer vous concernant, quels sont les conseils que vous pouvez donner à Isabelle qui va accompagner son compagnon ?
Alors, on oublie souvent les aidants. C'est un rôle extrêmement compliqué parce que voilà, elle le vit dans sa chair, mais c'est pas elle. Son mari, il va aller au combat, donc il sera plus dans l'action. Il faut jamais oublier les aidants. Il faut pas hésiter à se faire accompagner, à rejoindre peut-être des groupes d'aidants. Il y a Patients en réseau qui a un groupe pour des aidants parce que on est impuissant, on a envie de faire quelque chose, on sait pas trop quoi faire. Peut-être de lire le livre, être là.
On sait pas trop quoi faire, on sait pas trop quoi dire.
Et il y a des aidants qui plongent aussi, qui se font pas aider. Donc vraiment, moi, je conseille à Isabelle de rejoindre vraiment un groupe de soutien pour les aidants.
Vous dites dans le livre, Delphine, ça impacte tout l'entourage. Alors évidemment, en première ligne, les conjoints, les enfants, les parents. Ça peut être aussi les amis, les collègues. Je veux dire, l'impact est immense.
Mais oui, ça secoue tout un écosystème. J'aime bien prendre l'image du caillou jeté dans l'eau, et puis ça fait des ondes. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui est changé. Alors ça redessine les liens, ça peut les renforcer. C'est important de le dire aussi. Voilà, les enfants, je ne sais pas si Isabelle a des enfants. Voilà, mais ne pas hésiter à se faire aider. En fait, le pire dans tout ça, c'est de rester seul. Et Christophe André, que j'ai interviewé sur mon podcast, disait il vaut mieux être mal consolé que pas consolé du tout. C'est vraiment important.
Ça vous a aidé cette phrase, hein.
Oui, ça m'a aidé. Alors parfois il y a des consolations qui sont vraiment maladroites, mais finalement ne pas être consolé, être seul, c'est vraiment le pire.
Une ou deux erreurs à éviter si on est touché dans notre entourage par un cancer. Vous dites par exemple la phrase « je te comprends ». On peut pas vraiment comprendre finalement si on l'a pas vécu dans ses chairs.
Si je prends l'exemple par exemple d'une personne endeuillée, une maman qui a perdu un enfant, moi je vais jamais aller dire « je te comprends » parce que je peux pas la comprendre. Ouais. Mais c'est plutôt valider les émotions de l'autre.
Vous dites il faut beaucoup écouter, hein. Une écoute un peu passive parfois.
Une écoute active. Écouter, oui c'est ça, mais sans parler trop en fait. Donc c'est vraiment... et pas minimiser, pas c'est un cancer du sein, ça soigne très bien. Quand la personne vient, si ça se soignait si bien, hein, professeur, on le saurait. Pas parler de soi, pas d'injonction. Il faut que tu penses à autre chose, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu trouves un sens, il faut que tu te relèves. Vraiment, créer cette petite bulle, et aussi bien pour Isabelle qui est aidante, mais créer cette petite bulle pour que le malade puisse dire ce qu'il a sur le cœur, se déposer, et aussi pour l'aidant, en fait.
C'est incroyable le témoignage dans votre livre. On annonce un cancer, et puis la personne en face lui dit « Ah oui, moi aussi, tu sais, j'ai des problèmes de chaudière là en ce moment. »
Je l'ai entendu, celle-là, c'est vraiment moi aussi. Mais il y a un phénomène psychologique entre la personne malade et non malade, et la personne non malade va avoir tendance à vouloir se mettre au même niveau que la personne malade et sortir des énormités. Voilà.
Bon, je voudrais remercier vraiment tous ceux qui nous ont appelés, Didier aussi, Alfortville. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps d'écouter votre témoignage, mais je laisse tous les livres à disposition au Standard d'ici par Île-de-France. Vous prenez ce qui vous parle, celui de Delphine Rémy, être là, consoler et soutenir une personne malade, très important d'avoir un peu ce mode d'emploi, parce que c'est vrai que c'est un peu le plongeon dans l'inconnu. Le livre du professeur Fabrice Barlesi de l'Institut Gustave Roussil, on est le directeur général, Guérir le cancer commence aujourd'hui aux éditions Privat. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui, professeur? Pourquoi ce titre? Pourquoi aujourd'hui?
Ah, c'est pour l'idée de dire que c'est tout ce qu'on est capable de faire, c'est une collection de choses, et qu'aujourd'hui on met en œuvre tout ça, et que le but c'est de se dire que tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui va permettre d'arriver à la guérison pour chacun de nos patients.
Et puis il y a aussi cette bande dessinée hyper bien faite, La vie en plus, ensemble, guérir le cancer aux éditions Glénat. Ça c'est très bien peut-être pour la lire en famille, pour expliquer à l'ensemble de la famille, avec beaucoup de pédagogie, ce qui se passe, comment réagir. Il y a quand même quelques clés très intéressantes dans cette bande dessinée. Tout ça est à votre disposition au 01 42 30 10 10. Merci beaucoup, professeur Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave Roussy.
Merci à vous.
Pour votre temps et pour aussi votre action et tout ce que vous faites à Villejuif. Et merci à vous, Delphine Rémy, être là, consoler, soutenir une personne malade, et tout ce que vous faites aussi pour accompagner justement maintenant les malades, et votre podcast
Naître princesse, devenir guerrière.
Merci à tous les deux.
Merci
beaucoup.
À vous.